Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous quotidien de votre émission Radio Foot International. Aujourd'hui dans cette émission, nous évoquerons le reconfinement qui s'abat sur la France et de plus en plus de pays européens. Quelles conséquences pour le football national, européen et continental alors que des éliminatoires sont programmées à la mi-novembre? Nous ferons le point. Ligue des champions, bilan de cette deuxième soirée, de la deuxième journée, avec le joueur de la soirée, l'anglais Marcus Rashford, auteur d'un triplé avec ses mancuniens de plus en plus forts. La rencontre de la soirée, Juventus-Barça, où les Blaugrana ont enfin vu ou revu briller leur ailier Dembélé. Alors que Pirlo, lui, l'entraîneur de la Juventus, est étrillé par la presse italienne. Les clubs français, bilan de leurs prestations que l'on peut résumer ainsi. Bonjour, tristesse. Et nous la boirons, cette tristesse, tous ensemble ici. Et puis nous aurons une invitée spéciale dans Radio Foot aujourd'hui, Sabine Calegari, psychanalyste, qui vient de publier un ouvrage dans la tête de Zidane. Elle nous racontera donc pourquoi elle s'est intéressée à cet énigmatique personnage et surtout ce qu'elle a deviné ou cru comprendre. Philippe Doucet, bonjour.
Bonjour Madame Annie.
Bonjour Monsieur Philippe, comment allez-vous?
Très bien.
En ces temps bizarres. Ça va, vous êtes là, c'est le plus important.
Oui, hein, pas du tout affecté.
À une distance respectable de Jean-Philippe Bouchard. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Merci d'être là, ainsi que Xavier Barré.
Bonjour Annie, salut à tous.
Aujourd'hui, qui est là, hein, exceptionnellement, et non pas demain. David Finzel m'a aidé à préparer cette émission. Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
Les semaines qui arrivent seront rudes économiquement, mais aussi humainement. C'est pourquoi je voulais vous confirmer ce soir que la continuité du sport qui se pratique comme un métier est aujourd'hui assurée. Les sportifs de haut niveau et les sportifs professionnels pourront continuer à s'entraîner. Et ils pourront aussi faire des compétitions puisque les déplacements pour raisons professionnelles sont autorisés. L'État ne laissera tomber personne. Nous faisons confiance aux encadrants du sport. Et nous travaillerons évidemment avec nos partenaires que sont les collectivités.
La ministre des Sports française qui s'est adressée donc à l'Assemblée nationale hier soir pour rassurer aussi sans doute le football professionnel qui continuera à animer nos week-ends et nos soirées. Pour le moment, en tout cas. Cependant, dans l'époque que l'on traverse, cette décision est peut-être périssable si la pandémie prenait encore une autre tournure. Ça, évidemment, on ne peut pas le deviner. Mais contrairement au mois de mars dernier, le choix du gouvernement est, semble-t-il, totalement différent. Xavier Barré, on a l'impression quand même qu'on a appris des erreurs.
Il y a deux choses. La première, c'est qu'effectivement, ça coûte très cher économiquement d'arrêter des pans entiers de l'activité, et le sport professionnel en est une, qui ruisselle sur tout le monde, sur toute la société en général. On a eu l'occasion d'en discuter plusieurs fois dans cette émission. Et puis, le deuxième élément, c'est que, eh bien, le sport professionnel a appris à s'organiser depuis le mois de mars pour vivre avec le virus.
Ça leur coûte cher, mais ils font beaucoup de tests et ils sont très prudents.
Exactement. Il y a eu tous des protocoles mis en place dans ce qui concerne le football, le rugby, mais tous les sports professionnels se sont organisés pour pouvoir continuer à jouer malgré l'épidémie. Et jusqu'à présent, il y a eu très peu de joueurs qui ont été touchés. Et quand ils l'ont été, les clubs les ont tout de suite isolés, ils ont été traités, et il n'y a eu aucun drame comme celui qu'on aurait pu connaître pendant le confinement, avec le joueur de Montpellier, Junior Sambia, qui lui était à cette époque, comme tous les Français, chez lui, et qui lui s'est retrouvé en réanimation parce que justement son club, n'ayant plus d'entraînement ni d'activité, n'avait pas pu le suivre. Donc en réalité, les sportifs professionnels aujourd'hui, suivis quotidiennement par les structures médicales de leur club, sont mieux protégés que les autres. Donc il n'y a pas de raison de les priver de leur activité.
Il n'y a pas de raison d'arrêter le championnat, au moins le championnat de France, le championnat national, Jean-Philippe Bouchard?
Il pourrait y avoir une raison de solidarité ou de message à faire passer. C'est-à-dire que le jour où le football s'arrête, ça veut dire que c'est grave.
Cette corde a déjà été utilisée, me semble-t-il, en mars.
Voilà, donc là, tout de suite, ça fait passer un message anxiogène sur la gravité de la pandémie. Maintenant, le foot, c'est, dans les sports pro, plutôt mieux organisé que le rugby, par exemple, en France, où il y a des clubs de rugby qui ont été extrêmement contaminés avec la quasi-totalité d'une équipe positive. Donc là, évidemment, ça provoque des reports de matchs. Alors, il y en a dans le foot en Ligue 1 aussi, hein, mais... cas, on va dire que le foot va arriver jusqu'à la trêve hivernale. Normalement, le foot pro devrait arriver à la trêve hivernale sans trop de dégâts, on va dire.
Vous faites allusion en Ligue 1. Hein, y a déjà des matchs qui ont été annulés, et notamment ces derniers jours, le RC Lens, si je ne me trompe pas, c'était face à Nantes. Hein, d'abord, ils devaient aller. Ils ont plus de 10 joueurs malades. Là vient d'être annulé Marseille, RC Lens. Alors peut-être après RC Lens Stade de Reims, on ne sait pas encore. C'est vrai que Philippe Doucet...
Il y avait déjà eu des matchs annulés comme ça,
oui,
en début de saison.
Oui, Saint-Etienne-Marseille.
Hein. Exactement.
Enfin,
match de Nîmes aussi, en tout début de saison, il y avait eu 3-4 matchs comme ça annulés.
Est-ce que c'est tenable dans le contexte, Philippe Doucet?
On observe
c'est un peu de l'anti-douleur, justement, maintenir le sport professionnel.
Non, mais on tient compte de ce qu'on a réalisé, de l'erreur qu'on a réalisée au mois d'avril en déclarant « bon ben on arrête ». Tout de go comme ça, sans savoir ce qui allait se passer en France, ailleurs. Enfin, c'était complètement sidérant. C'est-à-dire, en gros, je pense que Jean-Philippe, sans vouloir dire exactement ça, mais en gros, on peut en tirer ça. Le sport a servi d'exemple. Puisqu'on arrête le foot, vous vous rendez compte que c'est vraiment très grave, puisqu'on peut même plus sortir, aller gambader dans la prairie après un ballon.
On n'avait pas de test aussi à l'époque. Hein.
Pas de test, on n'avait pas de masque, on n'avait rien en fait. On était pris au dépourvu. Et le football professionnel,
ça avait été décrété fin avril, au moment du déconfinement.
C'est ça. Donc ça n'avait rien à voir avec ça, puisque les Allemands ont repris en mai, les autres ont repris en juin. On avait largement le temps de regarder ce que feraient les autres. Bon, on a voulu le faire à la française, c'est-à-dire
on le refait pas.
On est beaucoup plus intelligent que les autres, on sait mieux que les autres, donc on arrête, etc. Là, on le refait pas parce que je pense que la leçon a été sans doute un petit peu comprise. Et deuxièmement, là, il y a une logique. C'est-à-dire qu'on dit, bon, on a compris enfin, c'est étonnant comme ça, le cheminement est long, mais que tout ce qui était professionnel, il fallait continuer, parce que sinon tout le monde va crever, mais de faim. C'est un petit peu différent. Donc tout ce qui est professionnel continuant, le sport en fait partie, comme les autres activités. Et quand vous disiez que le sport, je crois que c'est Xavier qui disait que le sport professionnel finalement se protégeait bien,
s'organise bien.
Il y a juste une constatation à faire, c'est que un championnat qui est touché à l'heure actuelle, c'est le championnat national, où il y a eu pas mal de matchs, qui est la 3e division française, où il y a eu pas mal de matchs annulés. Bon, on voit bien la différence. Quand on a les moyens en Ligue 1, on peut se protéger beaucoup mieux et on peut faire son métier correctement, comme dans les entreprises.
Et d'ailleurs, une des décisions de la Fédération française de football hier a été d'arrêter tout ce qui est sport amateur.
Oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas les mêmes moyens financiers. Philippe parle du championnat national qui est un championnat hybride avec des joueurs qui ont des statuts semi-professionnels, d'autres qui travaillent, d'autres qui sont étudiants.
Alors, ne parlons pas du régional et
bien sûr,
ces catégories.
Effectivement, il n'y a pas les mêmes moyens financiers pour organiser la protection des joueurs et puis des personnes qui sont autour d'eux.
Quelles conséquences, Xavier, imaginez, c'est si des matchs se disputent hors de l'Union européenne? Parce que je pense à la Ligue des Champions ou à la Ligue Europa, on ne joue pas que dans l'Union européenne. Or, hier, le président de la République nous a dit, dans l'Union européenne, on peut circuler librement, pas en dehors. On peut penser à l'Angleterre, qui n'est plus dans l'Union européenne, à la Suisse, tout simplement. Mais il y a aussi la Turquie. On a eu des matchs entre Istanbul, Başakşehir. On a l'Ukraine, avec le Dynamo de Kiev et le Shakhtar. La Russie,
la moitié des pays européens. La moitié, c'est l'Union européenne, l'autre moitié,
exactement.
C'est pas l'Union.
Donc. Est-ce que là, les frontières, ça va être compliqué?
Là, c'est le rôle de l'UEFA, effectivement, de trouver la bonne solution.
Cette compétition pourrait être, elle aussi, on s'en souvient, pour la terminer, ils l'avaient mise dans un seul pays, unité de lieu et de temps.
Oui, pour les phases finales, effectivement. Là, depuis, on voit que l'UEFA a appris à s'adapter aux différentes législations, réglementations locales. Puisque, par exemple, pour ce qui est de la présence du public dans les stades, pour les phases finales, c'était totalement à huis clos. Là, ils ont laissé à chaque État la possibilité d'organiser l'accès au stade.
Hier, en Hongrie, il y avait 20 000 personnes, c'est ça?
Dans une limite de 20% de la capacité du stade. Donc, ils ont mis une jauge maximale, qui est rarement atteinte, d'ailleurs, dans certains pays. Sinon, c'est aux autorités locales de s'organiser. Avec quand même, dans la nouvelle réglementation de l'UEFA, dans ce qui concerne notamment la Ligue des Champions, la responsabilité d'un éventuel forfait incombe totalement au club. C'est-à-dire que l'UEFA ne peut pas être responsable. C'est-à-dire que si une autorité nationale...
Ils doivent trouver sinon un stade aussi à eux de trouver un stade.
Donc ça veut dire qu'une autorité nationale qui priverait le Paris Saint-Germain de jouer un match de Ligue des Champions, ou bien le Barça, ou la Juventus, ou Liverpool, pour des raisons sanitaires, se mettrait à dos une partie des supporters qui sont autant d'électeurs, il ne faut pas oublier, dans des pays démocratiques.
Mmh. Les conséquences aussi, peut-être, Philippe, c'est pour les pays, alors évidemment les compétitions continentales, mais on pense avant tout à l'Afrique, il y a des éliminatoires qui vont se disputer à la mi-novembre prochain. On entend les sélectionneurs comme Michel Dussuyer hier avec le Bénin qui donne les listes des 23 joueurs. Je crois que la Mauritanie l'a fait aussi récemment. Est-ce que les clubs européens, parce que évidemment beaucoup de ces joueurs jouent en Europe et dans l'Union européenne, est-ce que les clubs vont laisser gaiement partir leurs internationaux?
Moi, j'émets ce doute depuis le mois de septembre. Donc, vous ne serez pas surpris que fin octobre, exactement. Je pense exactement la même chose.
Dans toutes vos interventions durant le confinement sur la page Radio Foot.
Oui, mais j'ai un doute. J'ai un doute. Qui est nourri par une simple constatation. On veut jouer deux matchs de qualification pour la CAN. C'est-à-dire qu'on va jouer dans 48 pays africains, dont un certain nombre ont eux-mêmes leurs frontières fermées ou n'ont pas de compagnie aérienne qui... l'aéroport n'est pas ouvert aux compagnies aériennes, etc., avec des vols qui n'existent pas, etc. J'ai beaucoup de mal à penser que 48 pays africains n'ont pas autre chose à faire que financer ont les moyens de financer des vols privés, avoir des autorisations particulières pour jouer ces 48 matchs. J'ai beaucoup de doutes et j'ai peur, se rajoute là-dessus, j'ai évidemment peur depuis le début aussi, que les clubs européens bloquent un certain nombre de joueurs, et là ils vont avoir une excuse toute trouvée avec le durcissement, exactement, pratiquement dans toute l'Europe, le durcissement des mesures intérieures.
D'autant qu'on a un exemple en Afrique, c'est ce qui se passe autour du club du Raja de Casablanca. La demi-finale avait déjà été reportée avec l'acceptation du Zamalek, puisque ça doit se passer au Caire, et finalement elle serait encore apparemment déplacée. Il y a 14 joueurs positifs actuellement dans l'effectif, et ça repousserait évidemment d'autant la finale de la Ligue des Champions de la CAF.
Et vous savez comment en Europe on considère l'Afrique, c'est-à-dire que s'il y a un joueur du Raja malade, un dirigeant d'un club européen peut se dire, oh là, mais si mon joueur va au Malawi, ce qui est quand même à juste 5000 km ou à minima, il est hors de question, il va être malade à cause de, enfin pas à cause des joueurs du Raja, mais vous voyez ce que je veux dire. Le raisonnement va être vite fait pour beaucoup d'entre eux, et je pense qu'il y aura beaucoup de mesures contre. Et là où j'ai très peur, pour finir, là où j'ai très peur, c'est que je vois la FIFA sur ce dossier-là, très embêtée. Elle est en train de traiter énormément de choses avec les grands clubs. On ne sait pas tout, mais elle traite beaucoup de choses avec les grands clubs. À minima, son championnat du monde des clubs, et qu'elle veut faire absolument. Je la vois mal aller dire, non, non, il est hors de question, le règlement dit bien, laissez Sadio Mané aller jouer à l'autre bout de la planète, il n'y a aucun problème, le règlement le dit bien. Je vois bien la FIFA être très neutre et dire, bon, constatons les dégâts, et puis n'obligeons pas les joueurs à voyager. J'en ai très peur.
Jean-Philippe,
il suffira.
Parce qu'il n'y a pas que l'Afrique et l'Amérique du Sud,
évidemment. Qu'un joueur africain évolué en Europe revienne positif après un déplacement pour
Ça a été le cas en octobre.
Oui, mais pas seulement avec les Africains, avec les Sud-Américains aussi. On sait que le virus circule, qu'il y a des pays effectivement où il y a moins de protection. Donc forcément, les clubs européens qui ont des énormes intérêts économiques en jeu ont tendance à protéger leurs salariés.
Surtout en ce moment où ils n'ont plus de revenus de billetterie et tout passe évidemment par les écrans de télévision. Mais justement, on y va faire cette Ligue des Champions et les matchs, parce qu'il y en a eu plein hier soir.
Marcus Rashford qui va gagner son face-à-face. Le coaching gagnant d'Ole Gunnar Solskjaer. Ça fait 2-0 pour Manchester United. Marcus Rashford, une nouvelle fois, qui va se présenter face à Peter Gulacsi. Et par deux fois, en l'espace de 5 minutes, Marcus Rashford fait parler la poudre. 3-0 pour Manchester United. Martial qui a retrouvé Rashford. C'est un triplé. Marcus Rashford est létal. 3 ballons touchés dans la surface, 3 buts.
Le buteur en forme de la soirée qui est sorti du terrain avec son ballon dans les bras comme un gamin qui vient de gagner un cadeau hier soir grâce à Marcus Rashford. Les Mancuniens ont infligé une sévère correction à RB Leipzig, pourtant demi-finaliste de la dernière et si particulière Ligue des Champions. Ils ont pris 5-0 les Allemands de Leipzig. Le grand attaquant de 22 ans a en plus établi un record en marquant un triplé en 27 minutes passées sur le terrain, battant au passage Kylian Mbappé, un triplé lui, mais c'était face à Bruges et en 38 minutes. Rashford au plus haut, ça vous surprend, Jean-Philippe Bouchard?
Bah non, parce qu'on l'a, ça fait un moment, non, mais ça fait un moment qu'on, le, voilà. qu'on le voit et qu'il a fait déjà du mal, par exemple au PSG notamment.
Oui, il y a deux ans, c'est ça.
Voilà, donc on l'a repéré. On l'a repéré après.
Je pense que c'était il y a deux semaines.
Aussi. Et réitère.
On l'a repéré, on le connaît. Ce qui est intéressant, c'est que il est en train de porter cette équipe de Manchester, parce que qui n'était pas en si bonne forme. Hein. On se souvient effectivement il y a deux ans les commentaires avant le match contre le PSG, l'élimination du PSG, tout ce qu'on disait sur Manchester. Mais en fait, alors. Avec l'arrivée aussi de Solskjaer, de façon concomitante, on a une équipe de Manchester qui se rebecte quand même, alors qu'elle était devenue moyenne finalement.
En fait, elle a quand même pris 6-1 contre Tottenham l'autre jour. Oui. Donc en fait, ça dépend de l'adversaire. C'est ça ce qui est caractéristique à Manchester United. Quand ils doivent faire le jeu, eh ben, ils gagnent pas. Quand en revanche, ils sont face à une équipe comme Leipzig qui prend le jeu à son compte, qui en plus joue hyper offensif presque naïvement comme ça a été le cas hier, ah ben là, ils se baladent parce qu'ils ont des attaquants, Martial, Rashford, mais vous pouvez faire aussi rentrer le petit James, vous avez Lingard de temps en temps, vous avez Greenwood.
Vous faites rentrer Bruno Fernandes aussi.
Greenwood, oui, Bruno Fernandes à la baguette, mais vous avez des flèches. Et donc, dès qu'il y a des espaces dans le dos de ces défenses qui jouent très haut, eh ben, ils se baladent, et comme en plus ils ont du talent et qu'ils sont pas maladroits, eh ben, Rashford, il peut en mettre trois. Mais jusqu'à un quart d'heure de la fin, hier, il y a quand même que 1-0, hein, il faut pas oublier. Donc, c'est l'erreur du RB Leipzig qui a fait preuve peut-être d'un peu d'arrogance dans cette affaire. C'est qu'ils se disaient, on va revenir au score. Donc, ils ont attaqué. Et puis, dans le dernier quart d'heure, ils en ont pris quatre.
Ils se sont écroulés. En tout cas, on entend souvent, Philippe Doucet, des entraîneurs qui ont comme ça une épée de Damoclès. Alors, de la part de la presse ou de la part véritablement de leurs dirigeants. Et évidemment, on pense à Zinedine Zidane la semaine dernière. Mais là, Solskjaer, c'est pareil.
C'était super sub, hein.
Voilà.
Il devait pas rester, hein.
Non. Et de manière régulière, on entend, ah ben oui, ça y est, s'il gagne pas les deux prochains matchs, il est sur la mauvaise pente, il va être remplacé et tout. Mais on a l'impression, au contraire, que il, un peu, peut-être à la mode Zidane aussi, il tient son vestiaire et que finalement, ça va de mieux en mieux.
Oui, mais je m'engagerai pas je n'engagerai aucun pari sur aucune équipe cette année. Parce que je pense que ce qui est arrivé à Manchester arrivera à plein d'équipes. C'est-à-dire prendre 6-1 un week-end et gagner 5-0 le week-end suivant. Pour des raisons simples, c'est que personne ne s'est préparé de manière adéquate et habituelle. Personne n'est vraiment prêt. Il y a des sautes de concentration évidente avec des joueurs pas prêts, soit des joueurs pas prêts, soit des absents, soit un enchaînement de matchs qui fait qu'à un moment on est un petit peu moins bien et on lâche complètement. Donc je pense que ces résultats bizarres entre guillemets s'expliquent d'abord par un calendrier complètement dingo et un contexte complètement dingo. Et puis en plus, ce que disait Xavier qui est tout à fait juste, c'est que Manchester a toujours été une équipe beaucoup plus à l'aise en contre, enfin toujours. Depuis les années Martial, Rashford et autres. Donc c'est ça sa nourriture, c'est ça, c'est de pouvoir jouer en contre.
Donc aucune
contre Leipzig, c'était parfait parce que Leipzig c'est de la naïveté, mais en même temps ils ont bien compris la formule de la Ligue des Champions. Prendre 5-0, ça n'a aucune gravité.
Oui. Aucune. Sauf en phase de poule.
Bon, il y a juste que effectivement en cas d'égalité avec Manchester, ils seront derrière, ça c'est sûr. Mais à part ça, ça n'a aucune conséquence. Il valait mieux essayer d'égaliser plutôt que de maintenir son petit 1-0, pourquoi faire? Je veux dire, ça sert à rien. Il valait mieux essayer d'égaliser, et puis tant pis s'ils prennent une tôle. Ça n'a strictement aucune importance dans la formule de la Ligue des Champions telle qu'elle est aujourd'hui.
Mais en tout cas, peut-être que c'est pas l'année où, alors, à trop, en fait, en demander non seulement aux joueurs, mais aussi aux entraîneurs. Jean-Philippe?
Ils vont être sans arrêt la tête sur le billot dès qu'ils prennent 5-0 et portés au nu dès qu'ils gagnent 5-0. Donc, d'une semaine à l'autre, vous avez l'inverse. Et Manchester est le symbole le plus magnifique, ça. J'ai entendu des gens hier soir me dire, Manchester, ça peut être un candidat pour gagner la Ligue des Champions. Il y a trois semaines, c'était un candidat pour descendre en championship. Donc, c'est assez drôlissime, tous ces commentaires.
Après, on peut reconnaître à Solskjaer d'avoir quand même sécuriser un peu son poste, parce que il était quand même là pour faire l'intérim pendant 6 mois quand il est arrivé.
Ah ouais, mais enfin, tu oublies qu'au bout de 3 mois, il a re-signé pour 3 années.
Voilà, mais
c'est-à-dire qu'il a été vite titularisé.
Il a pérennisé son poste et pour l'instant, il n'est pas tellement question qu'on le vire en cours de saison pour l'instant.
C'est-à-dire qu'ils ont fait un mauvais début de championnat, mais Manchester United a vu ces dernières saisons se succéder depuis le départ d'Alex Ferguson, en fait, pas mal d'entraîneurs. Même Mourinho n'a pas réussi à s'inscrire dans la durée. Enfin, c'est presque habituel avec lui maintenant. Mais donc, du coup, quand ils tiennent quelqu'un qui a l'esprit maison, il faut pas oublier qu'il a été entraîneur de la réserve. Il a connu Pogba tout jeune à l'époque, qui a été joueur. Donc, il y a une vraie aura. Jean-Philippe Bouchard rappelait que c'était super sub parce que, effectivement, il a marqué des buts incroyables et notamment la finale de la Ligue des Champions en 1999 dans les arrêts de jeu alors que c'est le Bayern qui menait. Donc, il a quand même cet esprit club, cette tradition, cette philosophie de Manchester United, même si dans le jeu ça s'exprime pas forcément comme on l'aimerait. Le Manchester United de Solskjaer n'est pas aussi flamboyant que pouvait l'être celui d'Alex Ferguson. Il y a quand même un peu une ligne directrice, et à ce niveau-là, aller changer d'entraîneur pour mettre qui encore et puis rechanger
depuis
dans un
temps,
an,
ça, oui, ça et vaut, depuis le temps vaut... en plus que Manchester consomme les entraîneurs
depuis le départ d'Alex Ferguson à peu près, donc s'il y a un peu de stabilité, c'est pas plus mal.
L'affiche de la soirée, elle, a tenu ses promesses du spectacle où la Juventus a été battue à Turin par le Barça sur le score de 2-0 avec la VAR en vedette.
Si nous avons un outil qui peut montrer clairement, sans le moindre doute, qu'il y a une position de hors-jeu, on ne peut pas l'ignorer.
Il faut revenir à la source du problème. La VAR, c'est le mal absolu. On a laissé entrer le diable dans le football, maintenant c'est fini. Non.
Le joueur le plus déçu de la soirée, sans doute, c'était Alvaro Morata, auteur de 3 buts. 3 buts refusés par la VAR. Un habitué de ce fait, apparemment, Jean-Philippe.
Oui, mais alors, moi, j'ai entendu
les commentaires.
les commentaires, effectivement. Mais moi, je vais me faire le défenseur de la VAR sur ce coup-là. Parce que, franchement, les hors-jeux, à l'œil nu, à vitesse réelle, ils sont compliqués à voir. Ils y sont bien, c'est très clair, mais il s'agit de centimètres quand même.
Et, parfois de millimètres.
Voilà, donc là-dessus, moi je trouve que c'est un plus pour le foot. Alors c'est décevant pour Morata. Il y a un concours de circonstances, 3 buts, voilà. Alors, Rashford en met 3, lui il aurait pu faire aussi bien. Mais en l'occurrence, finalement, s'il faut respecter les lois du jeu, et le hors-jeu est probablement la loi la plus importante du football, ça sert à quelque chose, voilà. C'est malheureux, mais là, pour moi, ça servait à quelque chose.
Xavier, vous aussi.
Je suis tout à fait d'accord avec Jean-Philippe Xavier Bouchard, d'ailleurs. On a fait un bouquin ensemble sur les grandes erreurs de l'histoire de la Coupe du Monde, où justement, on présentait l'arrivée de l'assistance vidéo avant la Coupe du Monde 2018, donc aux éditions Solar. Et donc, du coup, je vais pas renier ce qu'on a écrit à l'époque.
Il est encore à vendre, puisque tu en fais la pub encore.
Tu sais que c'est
il est encore dans les kiosques.
Qui fait référence sur l'histoire de la Coupe du Monde et toutes ces grandes erreurs d'arbitrage. Dans les librairies plus que dans les kiosques, allez-y vite avant qu'elle ferme. Mais donc, attendez, la règle du hors-jeu est claire. Si le joueur est hors-jeu, le but n'est pas valable. Donc voilà, il y est
non,
pas.
Mais en plus,
pendant
Morata,
des années.
C'est pas la première fois que ça lui arrive.
Oui,
et
je crois.
Effectivement, oui, c'est la deuxième fois.
Il y en est à 13 situations de hors-jeu dans l'histoire de la Ligue des Champions avec laquelle il a participé, voilà, aussi bien avec la Juve qu'avec le Real Madrid et même Chelsea. Donc du coup, voilà, c'est un joueur qui est toujours à la limite. Il est hors-jeu.
Hier soir, il a été limite.
Non, mais il faut pas en faire trop non plus, en l'occurrence, sur le VAR, parce que les 2 premiers buts, il est signalé hors jeu, donc c'est pas le VAR qui a annulé les 2 premiers buts déjà. Il est signalé par l'assistant. Mais la nouveauté, la grande nouveauté qui s'adapte au VAR, c'est vrai, et je trouve qu'on n'a pas encore trouvé le bon équilibre sur le cahier des charges globalement. C'est un outil dont on se privera pas dans l'avenir. Par contre, le cahier des charges est à revoir dans certains domaines. Et à force de laisser sans arrêt toutes les actions se dérouler, alors même que l'assistant il sait qu'il y a hors jeu. Du coup, on se retrouve avec une espèce de football virtuel. Les 2 premiers buts, c'est typique. C'est du football virtuel, c'est-à-dire que l'assistance dit « je me suis peut-être trompé, il y a hors-jeu pour moi, mais je me suis peut-être trompé, je laisse jouer, Morata marque 2 buts, il lève après, et là, on se dit « ah, ça y est, le VAR a encore annulé un but, etc. » Non, le but, il aurait été annulé, il n'aurait même pas été marqué avec du vrai arbitrage. C'est-à-dire qu'il aurait été signalé hors-jeu et ça serait arrêté.
Et du coup, on
est dans un espèce de football virtuel permanent. Mais le pire, c'est que s'il n'y a pas but, l'action continue. Et donc on sait même pas que on croit qu'il y a eu occasion de but, on comptabilise des statistiques en disant occasion de but énorme, arrêt du gardien fantastique, tir au but cadré, machin, tout ça est faux, c'est du virtuel complet.
Oui, mais ça,
en fait, l'assistant aurait levé de son drapeau et tout ça aurait été annulé. Mais comme le gardien a arrêté la balle et qu'il relance,
oui,
on
mais la grande
vous
chance.
L'homme des statistiques.
Mais oui, mais bien non, sûr. On est dans un football virtuel qui compte du réel et du virtuel.
Oui, à part que le
but. Le seul but qui posait problème, c'est le troisième. Là, typiquement, c'est le VAR qui a décidé.
Qu'il n'y ait ni public ni contestation change aussi un petit peu le.
Oui, mais il y a quand même un élément très important d'évoquer Philippe et dont on parlait dans le livre aussi, c'est que avant, effectivement, vous leviez le bras et l'action était arrêtée. Aujourd'hui, vous la laissez continuer et donc il y a but ou il y a pas but, mais parfois il y a des buts qui n'ont jamais eu lieu alors qu'il n'y avait pas position de hors-jeu et que l'arbitre ou le juge de touche avait pu se tromper. Donc aujourd'hui on a cette possibilité. Moi je trouve ça très bien que parfois quand c'est à la limite, et ben on laisse l'action se dérouler et le but est validé. J'en ai vu plusieurs fois.
Ce sera très bien jusqu'au jour où Ronaldo ou Mbappé se fera fracasser la jambe par le gardien de but sur une sortie alors qu'il était 3 mètres hors-jeu. Et ce jour-là, il y a peut-être des gens qui diront finalement, il faut peut-être revenir là-dessus parce que là, mon Ronaldo, il est absent 6 mois parce que on laisse continuer toutes les actions.
Oui, mais il y aura
désolé,
pas de...
non, ça va arriver.
Je suis pas du tout d'accord avec toi, Philippe. Ça arrive de temps en temps. On n'a pas eu besoin d'une situation de hors-jeu pour voir Van Dijk se faire découper dans la surface par le gardien d'Everton.
Là, en l'occurrence, oui. Même lever le drapeau n'aurait pas suffi.
Voilà, donc ça peut arriver dans toutes les situations, même quand il n'y a pas de hors-jeu et sans assistance.
Sur une fausse action, ça posera problème. Le jour où, ça posera problème.
Alors
c'est
en fait,
action virtuelle,
rendons hommage au vrai meilleur joueur peut-être de ce match hier, en tout cas pour ce qui était du club adverse, qui était le Barça, c'est Ousmane Dembélé. Vous l'avez trouvé impressionnant hier, Xavier Barré, parce que
j'ai bien aimé un petit joueur là. Comment il s'appelle, un petit numéro 10, oui. Là, qui était pas mal du tout. Je sais pas ce que c'est ce joueur.
Ouais. Non mais c'est vrai.
Ils étaient tous libérés, paraît-il, en jouant hier soir avec le poids du président. Au moins sur les épaules.
Non, mais surtout Ousmane Dembélé, tout le monde sait que c'est un super joueur quand il est en condition. Parce qu'effectivement, autant Griezmann et Messi, ça peut pas fonctionner puisqu'ils évoluent dans le même registre, autant Ousmane Dembélé sur son côté, quand il est en pleine possession de ses moyens physiques.
Mais on le voit tellement rarement qu'on se demandait s'il avait pas perdu aussi.
Ça
son
nous donne
football.
Des regrets qu'il soit pas plus rigoureux dans son hygiène de vie pour qu'on le voit plus souvent, parce que c'est un joueur qui est bourré de talent.
Vous avez apprécié aussi Philippe?
Bon, c'est un fantastique joueur, Dembélé. Moi, j'adore, mais. J'adore quand il est dans le bon état d'esprit et surtout quand il a deux jambes fit sur le terrain, ce qui est devenu extrêmement rare.
Il est encore très jeune et puis rappelons que celui qui joue à côté de lui là, le petit dont
le petit numéro 10,
le petit gaucher,
à ses débuts et à son arrivée au Barça, il était tout le temps blessé aussi, il mangeait des pizzas n'importe comment, sans doute moins que Dembélé, ok, mais il a connu aussi des problèmes un peu alors, d'hygiène alimentaire, on va dire, un peu à ses débuts aussi. Donc, donnons-lui un peu de temps.
Ça fait un moment quand même.
C'est à lui de décider. On sait d'où viennent ses problèmes. Tout le monde a identifié son talent. C'est son ambition à lui. Voilà. C'est assez simple en fait.
Ça dépend que de lui en fait.
Mais ce Barça, est-ce que vous l'avez trouvé? Alors hier, ils ont donc gagné 2-0, en plus à l'extérieur, en plus à la Juve. Vous les avez trouvés libérés, vous aussi, plus comme on attend un Barça?
Non, mais je les ai trouvés intéressants. J'ai trouvé que Pjanic, qui revenait à Turin, mais sous un autre maillot, était très bien dans un registre où on s'obstinait jusqu'à présent à laisser Busquets, qui est visiblement vraiment au bout du rouleau, même s'il est rentré en deuxième mi-temps. Il y avait des complémentarités, il y avait des joueurs on parlait de Dembélé à l'instant, on était là pour prendre les espaces. Il y avait un travail qui a été fait sur la complémentarité de cette équipe et non pas sur une accumulation de talents qui étaient censés se mettre ensemble. Ça a plutôt bien marché, mais encore une fois, la Juventus n'a pas été très performante hier.
C'était déjà la patte Koeman, Philippe.
C'est difficile à dire puisque je vous rappelle que ce week-end, on a beaucoup d'observateurs, comme vous le disiez tout à l'heure, estimaient que globalement Koeman c'était déjà un échec et qu'il fallait le virer. Donc on va pas 3 jours après dire exactement le contraire. Quoique ça ne gêne pas certains. Mais bon, nous on va pas le faire. Donc la patte, en tout cas je dirais qu'on a retrouvé un Barça qui ressemblait effectivement au Barça des bonnes époques, avec une nuance que vient de citer Xavier, c'est que la Juve était quand même pas très très bien. elle a beaucoup de joueurs qui étaient très limite, limite blessure, pas super en forme, beaucoup d'absents, etc. Donc elle a pas mis un rythme fou. Et on sait que le Barça, s'il est pas trop bousculé, on savait déjà que ça jouait pas trop trop mal le Barça.
Et justement la Juventus, en plus privée de sa star toujours positive, hein, même si ça le met en colère, Cristiano Ronaldo, il y a eu une grosse désillusion. Surtout qu'ils avaient gagné quand même leur premier match à Kiev face au Dynamo. Ce matin, la presse sportive
ils sont dans un groupe tranquille,
d'Italie, hein. Oui, mais s'énerve quand même un peu et met sur le bio Andrea Pirlo, débutant évidemment dans la compétition sur le banc, même si pas en costume mais en crampons au pied. Il connaît plutôt bien cette compétition. Andrea Pirlo, qui hier soir, dans sa conférence d'après-match, a risqué une explication sur cette défaite humiliante.
Ces jeunes joueurs, Pedri et Fati, ont grandi au sein du FC Barcelone. Ils ont partagé la philosophie de jeu du Barça depuis qu'ils ont 5 ans. Quand ils sont lancés dans le grand bain, ils savent ce qu'ils doivent faire et ce que fait le Barça depuis 40 ans. De notre côté, un de nos joueurs arrive de Parme, l'autre de la Fiorentina, le dernier de la Bundesliga. Ils ont des mentalités complètement différentes. C'est là qu'est la différence. La culture de jeu et comment vous l'interprétez sur le terrain.
Nel capire le situazioni in campo. C'est une bonne explication, Jean-Philippe.
Très mauvaise explication. Franchement.
Il a quand même grandement rajeuni l'équipe.
En fait, oui,
ça,
mais
c'est pas faux.
Il parle de lui ou de l'équipe? Ok, c'est un jeune coach. Joueur très expérimenté ou un jeune coach? Parce que, d'accord, il a rajeuni l'équipe. Ok, il y a 50% d'effectifs qui est peu expérimenté. Mais il a quand même, on parlait de Morata tout à l'heure. Il y a Bonucci, ça doit être 90 matchs de Ligue des Champions.
C'était pas ça la question.
Oui, mais.
La question, c'est est-ce qu'il y a un style de jeu Juventus? Et c'est vrai que Pirlo le sait, ces gars, Bonucci, Chiellini, ils incarnent, Buffon qui est toujours là d'ailleurs sur le banc, ils incarnent une Juventus qui pratiquait un football hyper réaliste, comme qui a fait le succès du football italien pendant toutes les années 90, 2000, et jusqu'à encore il n'y a pas si longtemps que ça.
Mais avec
aujourd'hui,
des
il y a
Italiens.
Une révolution. Voilà, avec des Italiens. Mais jusqu'à aujourd'hui, il y a une révolution du football dans le monde entier, en gros, depuis la fin des années 2010, là, avec notamment Guardiola, mais d'autres aussi depuis. Et les Italiens sont restés à la traîne. Que font les équipes de jeunes? L'équipe nationale ne s'est même pas qualifiée pour la dernière Coupe du Monde, pardon. Que font les équipes de jeunes en Italie? Vous les voyez? Il n'y a aucun style. C'est toujours un gros avançant devant, un bourrin. On essaye de le servir. Enfin, il n'y a pas de philosophie de jeu comme il y a avec les Espagnols, comme il y a avec les Portugais, comme il y a même maintenant avec les Anglais. Donc, c'est ça, je pense, que déplore Pirlo. Et quand il accepte le poste d'entraîneur de la réserve, je pense qu'il a cette idée derrière la tête de vouloir changer le style du football italien en s'appuyant sur les meilleurs jeunes et en les faisant venir à la Juventus. Mais on le propulse tout de suite au poste d'entraîneur en chef. Et du coup, c'est beaucoup plus compliqué.
Voilà pour ce qui est donc de cette équipe. Non, Jean-Philippe?
Non, je reste quand même sur le début de sa réponse à Pirlo, c'est quand même de dire qu'il a des jeunes joueurs pas très expérimentés. Et c'est
pas dans l'esprit juif, surtout.
Ouais,
d'accord. Comme la Masia le fait,
Il est arrivé au mois de juillet. C'est ça, il était nommé.
Même pas.
Si le PSG avait perdu, Tourelle aurait dit que Danilo manquait d'expérience en défense centrale.
C'est quand même de ce
ordre-là. C'est bizarre comme argument.
De cet ordre-là, quoi. Donc, peut-être qu'il avait des grands projets de formation et de transformer le style de jeu de l'Italie. Mais là, il joue un match de Ligue des Champions avec des joueurs. Que beaucoup beaucoup de clubs envient. À un moment, il faut assumer un peu là-dessus.
Enfin, j'invite quand même Xavier à regarder un peu plus le Campionato d'Italie parce que pas si mal du tout.
Il y a des équipes qui jouent très bien, mais pas la Juve.
Non,
la Lazio ça joue, Sassuolo ça joue, Vérone ça joue,
Naples
aussi, l'Atalanta
bien sûr.
Mais la Juventus n'a pas de style de jeu vraiment.
Avant de refermer cette page football pour se consacrer à Zinedine Zidane, Philippe, un de nos confrères africains, on en a beaucoup, nous dit les clusters sont plus nombreux en Europe qu'en Afrique. C'est tout juste un constat.
Cet argument est totalement juste, mais il ne pèsera strictement rien quand le président de Liverpool appellera la FIFA en disant « Non mais vous plaisantez ?» Vous croyez que Sadio Mané va aller jouer avec le Sénégal deux matchs au Sénégal, puis à l'autre bout du continent? Qu'est-ce que c'est que ça? Vous vous rendez pas compte avec les millions qu'on met dans la sécurité sanitaire des joueurs, etc. Voilà, c'est ça la réalité. Notre confrère africain, notre confrère africain qui fait cette remarque, elle est tout à fait juste. Mais malheureusement, cette opinion-là, que ce soit son opinion ou une opinion réelle, ne pèsera absolument rien dans le débat. J'en ai grandement peur.
Et puis au cas où, Mané aura une petite pointe à un adducteur juste avant.
C'est pas impossible. Hein. En échange d'une rénovation de son contrat.
Renégociation.
Il y a plein de choses qu'on... Oui, renégociation. Pas. Rénovation, c'est en espagnol.
Claro. Nous parlerons demain dans le Café des Sports des clubs français, le bilan. On tirera un bilan et je crois
qu'il sera meilleur.
Hein, il n'est pas très, très
ce soir.
Formidable.
Ce soir, ça sera
Rennes n'a pris qu'un but.
Pour l'instant, on va laisser les sujets foot direct pour parler d'une idole, d'une icône, à savoir Zinedine Zidane. Zinedine Zidane. Gareth Bale, Cure, Nedved, Maldini. Zizou, the best, le meilleur, le mystérieux, le mythique champion du monde 1998, l'homme au sourire enjôleur, l'homme de peu de mots, mais de gestes fascinants, le chauve le plus connu sûrement de la planète football. Ce personnage secret et énigmatique a suscité la curiosité d'une psychanalyste. Bonjour Sabine Calegari. Merci d'être dans Radio Foot aujourd'hui. Vous avez écrit un livre qui s'appelle « Dans la tête de Zidane », avec donc une belle photo mystérieuse sur la page de garde, livre publié au Monde Nouveau, c'est la maison d'édition. Vous dites que c'est une biographie de son âme, mais vous ne l'avez pas rencontré.
Je ne l'ai pas rencontré. Ce livre repose sur la méthode psychanalytique, c'est-à-dire c'est une méthode qui analyse le langage d'un être humain, qui cherche à sonder sa vérité profonde. Et la différence entre la psychanalyse ou l'enquête psychanalytique, c'est que l'interview n'est pas reine dans cette approche. Parce que l'interview, c'est la discipline du discours conscient. C'est ce que Zidane pourrait dire avec authenticité, comme il le fait toujours. Mais sur lui-même, ce dont il est conscient, c'est son discours officiel. Et la psychanalyse est une méthode de décryptage visant à sonder la vérité profonde d'un être humain et à lire entre les lignes, à décoder le langage verbal et non verbal avec lequel il communique avec nous.
Même s'il ne veut pas, donc. Lui, en l'occurrence, vous avez lu ses biographies, vous avez aussi écouté beaucoup d'interviews, même celles qu'a données sa femme à son sujet. Et ça, c'est une bonne matière pour une psychanalyste ?
Tout est matière pour une psychanalyste parce que la matière, c'est le langage. Donc, j'ai étudié ce qu'il a dit face caméra, dans la presse, à ses proches. J'ai écouté ses mots, ses silences, ses émotions. Je me suis intéressée à ses actes, à ses passages à l'acte même. Tout est matière parce que ce sont des signes, des messages émis par la personne. Et c'est entre les lignes de ces messages qu'on entend une autre vérité qui procède de ce que sa psychanalyse appelle l'inconscient.
Est-ce qu'en plus vous aimez le football ?
J'adore le football.
Parce que ça compte.
Mais comment concevoir Zidane en dehors du football ? Enfin, il respire football, c'est une icône qu'on peut aborder que dans son milieu.
Alors, dans la biographie de son âme, vous donnez de l'importance à deux personnages et qui comptent, en tout cas dans les interviews, il les cite très souvent et vous le racontez, mais notamment à son père. Oui. Et écoutons, c'est un extrait justement, vous avez dû écouter cette interview à Christian Jean-Pierre une fois sur TF1.
Un petit mot à dire à votre papa.
Ouais, mais qu'est-ce que je peux lui dire que je l'aime.
Il a dit je l'aime, je ne le dis pas, mais je l'aime.
Oui, il a peut-être jamais osé vous le dire.
Moi, Moi, j'ai pas honte, moi, de le dire, je vais. Les petits enfants aussi.
Mon papa, en fait, il me touche, il m'a toujours touché. Il m'a... C'est notre exemple, en fait, dans la famille. Ça a toujours été, enfin, mes parents, de toute façon, ça a toujours été nos guides. Donc, et finalement, quand vous devenez, vous, papa, et que tout, et que vous avez une vie professionnelle, que vous avez une vie affective top, remplie, je me dis qu'ils ont bien fait leur travail. Ils nous ont bien éduqués, et ça, ça n'a pas de prix.
Le papa de Zidane, qui lui aussi d'ailleurs a publié un livre. Jean-Philippe, oui. Vous vouliez commenter quelque chose.
Une question en fait sur la méthode, parce que Zidane est quelqu'un qui est tout le temps dans le contrôle, qui fait très très attention à la façon dont il va se présenter devant le public, devant la presse. Enfin, il fait très très attention à ses mots et son image. Et un des points d'entrée de la psychanalyse vers l'inconscient, c'est le lapsus. Et moi, j'en ai pas noté dans la communication de Zidane. Est-ce que vous en avez trouvé des lapsus chez Zidane ?
J'en ai trouvé quelques-uns. D'abord, une remarque par rapport à ce que vous dites. Il est vrai que Zidane est dans le contrôle de son discours. Il est dans la maîtrise, comme il l'est dans le jeu ou dans l'ensemble de sa vie. Mais ce qui m'a touchée particulièrement chez ce personnage, c'est qu'à la fois, il maîtrise son langage, il est dans une forme de minimalisme, d'épure, mais en même temps, il est étranger au semblant. C'est-à-dire, quand on écoute vraiment Zidane, comme je l'ai fait pendant 3 ans à travers tous ses documents et tous ses témoignages, on entend comme s'il cherchait à faire entendre une vérité nue. Quand on écoute son discours, il n'y a aucun semblant. Et si on l'écoute au plus près, il suffit d'entendre ce que lui dit pour arriver aux vérités les plus profondes. Il n'y a pas besoin de raisonnement extrêmement sophistiqué.
Alors sur le papa, c'est sa référence ?
Alors son papa, vous venez de passer un extrait de cette émission. Ce qu'il y a dans cet extrait, c'est un geste de Zidane. Il trace une sphère, ce qui signifie « mon père est tout ». Et c'est ça pour lui, je crois, son père, c'est tout. C'est un dieu-père, en quelque sorte, un absolu. Alors...
Moi j'ai lu Sabine Caligari votre livre et j'ai trouvé des passages extrêmement intéressants, et notamment sur ce qui concerne son père. Vous développez cette idée comme quoi Zizou, dans tout ce qu'il entreprend depuis, et déjà quand il était joueur au début de sa carrière, il a cette dette vis-à-vis de sa famille, et donc il fait tout ce qu'il veut pour rembourser d'une certaine façon cette chance qu'il a eue, ce don qu'il a eu, qu'il a pu l'exploiter, ce qui expliquerait donc tout ce qu'il entreprend aussi bien dans ses œuvres caritatives que dans sa décision, par exemple, de revenir sur le terrain, de devenir entraîneur pour transmettre. Est-ce que c'est effectivement en lien ?
Oui, tout à fait. Alors, on peut le dire comme ça, mais ce que je pense, c'est que comme chez toutes les belles âmes et les âmes sensibles, parce que je pense que Zidane est une personnalité extraordinaire, il y a cette aptitude à la gratitude. Mais la frontière peut être très fine entre la gratitude et la dette. La gratitude, c'est source de joie, la dette peut écraser et générer toute une série de peurs. Peur de ne pas être à la hauteur, d'être en défaut, de décevoir. Et c'est ça, à mon sens, qui pèse sur les épaules de Zidane face à ce père qui l'idéalise absolument. C'est qu'il a le sentiment d'être en dette comme en défaut, comme en jamais assez bien, jamais assez irréprochable.
Comme si ses parents s'étaient sacrifiés tout le temps, à chaque minute, pour lui et pour son bien.
Ce qui est le cas, certainement, de fait. Mais ensuite, ça prend la forme d'une dette morale qui, en effet, le détermine.
Par rapport au lapsus, arrivons à une autre, parce que justement il y a un passage très intéressant à ce niveau-là dans votre livre, et c'est autour sans doute du mystère le plus grand, en tout cas pour ceux qui regardent le football et qui en restent malgré tout à ce moment, c'est le fameux geste de la finale de la Coupe du Monde de 2006.
Makelele avec Buffon, tiens, on voit Zizou. Oh Zinedine, pas ça Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Aïe. Oh non, Zinedine.
Non mais ça se fait pas, ça peut pas se faire.
Ça peut pas se faire.
Il va sortir un carton, il va voir Zidane. Et c'est carton rouge, oh non. Et voilà ce que je redoutais, c'est épouvantable.
Et la France a perdu la Coupe du Monde ce jour-là. En tout cas, elle l'a pas gagnée. Ce sont les Italiens qui l'ont remportée. Zidane, on a tout vu, tout entendu sur la lecture labiale ou pas, de ce que lui avait dit Materazzi ou pas. Lui a donné une version, mais très elliptique.
Oui.
Et vous, vous en avez une autre.
Oui, alors c'est une version qui est dans le prolongement de la démarche psychanalytique qui considère que le secret d'un acte est souvent fondé dans le secret d'un homme. Donc, il n'est pas surprenant dès lors que la clé de l'énigme du coup de tête soit dans la vie de l'homme lui-même. Alors, dans sa vie intime. Alors, la vie intime, c'est pas seulement la vie privée. La vie privée, ce sont les faits de la vie privée. Ça a son importance, bien sûr, puisque ce sont les éléments qui sont là dans le décor du théâtre ou de l'arène de ce soir-là. Mais la vie privée, la vie intime, c'est aussi la façon dont une personne vit les éléments de sa vie privée. Comment, en fait, dans sa logique subjective ou dans sa galaxie intérieure, ça s'organise pour qu'à un moment donné, tout se cristallise et puisse exploser.
Et vous avez la réponse ?
J'ai dans le livre.
une hypothèse, je propose une interprétation.
Mais je vous laisse la présenter.
Eh bien, alors, je ne vais pas détailler ce qu'il y a dans le livre, peut-être
non, bien sûr.
Que certains d'entre vous le liront, mais en tout cas, je vois la chose comme quelque chose qui est ancré dans sa vie d'homme du moment et je vois...
Qui le gênait, en fait, à ça.
En fait, il y avait une structure dramatique, une structure psychique, une structure à quatre personnages dont je parle dans le livre, qui était véritablement l'essence d'un drame. Et ce drame a explosé ce jour-là. Les acteurs avaient comme rendez-vous ce jour-là. Et tout ce qui était des courants de fond dans la vie de Zidane depuis plusieurs années se sont à ce moment-là rencontrés dans ce moment historique. Et d'ailleurs, notre sidération vient du fait que cette rencontre historique de tout ce qui était déjà là, sous-jacent, c'est exactement l'essence d'une tragédie.
Mais est-ce que Zidane, alors, là, en l'occurrence, c'est effectivement le paroxysme d'une situation que vous décrivez dans le livre et qui est très intime, mais est-ce que ça veut dire que finalement, c'est pas le personnage aussi lisse et aussi parfait que ce qu'il veut faire croire et ce qu'il fait passer et ce que font passer les communicants autour de lui, cette image parfaite de la famille parfaite, du père parfait, du joueur parfait et maintenant de l'entraîneur parfait.
Oui, vous décrivez au fond un mythe. L'étymologie du mot mythe, c'est récit. Et le récit, il se construit avec sa participation, mais aussi en dehors de lui. C'est la façon dont une société se saisit de sa légende, enfin de cette icône. Donc effectivement, il se retrouve enfermé dans un mythe, même s'il y participe par sa discrétion.
Et il n'y a pas de lapsus révélateur ?
Non, mais il y a des vérités, il y a des éléments qu'on connaissait, nous, dans la presse, qui se disaient, qui s'entendaient, et que Sabine Calegari publie dans son livre. Moi, j'avoue que j'ai été très intéressé. Bon, on ne va pas le résumer en quelques secondes, parce qu'il y a quand même 40 pages dans ce chapitre consacré au mythe conjugal de Zidane. C'est extrêmement enrichissant, parce qu'il y a toute cette analyse liée à votre formation de psychanalyste. Et puis, il y a les faits qu'on connaît. Et donc, en recoupant les deux, on arrive effectivement à une explication extrêmement intéressante de ce coup de boule de la finale de la Coupe du Monde 2006, et je dois avouer que c'est un chapitre extrêmement instructif.
Eh bien, il faut lire alors votre livre, Sabine Calegari, et notamment vous imaginez que Zidane, pourquoi pas, terminerait sa carrière en jouant au cinéma, en faisant l'acteur.
Oui, alors c'est une des hypothèses que je fais quand j'essaie d'extrapoler sa trajectoire. Je pense qu'il a un pouvoir de mutation extraordinaire et qu'il peut nous surprendre. Et je pense qu'il se retrouve sur les marges de Cannes en tant qu'acteur ou star. Ce serait une belle façon de le célébrer.
Un peu comme Cantona, hein, qui aussi est passé du football au cinéma.
Oui, c'était aussi un être à multifacettes.
Merci beaucoup Sabine Calegari, votre livre « Dans la tête de Zidane » aux éditions Nouveau Monde. On vous dit à demain, tous ensemble, pour le Café des Sports.